Alors aujourd'hui, je vais vous lire une revue de culture et de synthèse franco-asiatique. Et c'est en mars 1951 que ça a été publié. J'ai ce livre et il y a le départ de Sri Aurobindo par Kade Setna, qui est Amal Kiran de l'Ashram, qui a été son disciple très long. Il a, je crois, quitté son corps à 104 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est très intéressant, c'est le yoga, c'est la signification profonde et son importance du yoga intégral de Sri Aurobindo. Voilà. Alors, je vais commencer. Le point central de la philosophie de Sri Aurobindo et de son yoga est la conscience dynamique de vérité qu'il a appelée le supramental. La conscience de vérité, on doit entendre cet état et cette force du divin qui font sortir de l'absolue transcendance divine dans une manifestation parfaite d'être et de devenir les potentialités du jeu de l'unique qui est en même temps le multiple. Cette manifestation est une harmonie complète dans laquelle existent et fonctionnent les vérités créatrices, les originaux sans défaut, les archétypes d'or, de tout ce qui forme notre monde imparfait dans lequel le divin a déposé le principe d'une difficulté, d'une difficile évolution de la matière, de la force vitale et de l'intelligence mentale avec une âme qui les soutient. Or, d'un vaste inconscient, d'une obscurité primordiale instaurée par lui comme le pôle intérieur d'un absolu transcendant. Entre ces deux pôles, au-dessus de la Terre en évolution et au-dessous du supramental, supermind, archétype, sont plusieurs plans occultes. Matière subtile, vitale, mentale, surmentale, overmind, et derrière les trois premiers, l'âme, la psyché, avec leur être et leur mouvement. Il existe dans tout ce système une interaction complexe de cosmos sur cosmos. Tout ceci, les anciens sages en avaient un aperçu. Ils voyaient dans l'homme le microcosme, une triple réalité concrétisée en ce qu'ils appelaient les trois enveloppes ou charira, l'extérieur grossière, l'intérieur subtil, la plus haute causale. Cette dernière est la de la substance du supramental, concentrant sa lumière créatrice de connaissance totale, de pouvoir infini, de béatitude immortelle. Mais les anciens n'avaient pas compris que cette évolution terrestre a pour but non seulement de libérer l'être dans le soi cosmique, et dans les équilibres de conscience toujours plus hauts, toujours plus profonds, et dans quelques éternités au-delà de la naissance et de la mort, mais encore de traduire en termes terrestres les modes dynamiques des profondeurs, les étendues, les altitudes, et finalement la suprême perfection du plan de vérité. Le karana charira, le corps causal, afin que les buts terrestres eux-mêmes puissent s'accomplir et non pas seulement servir de brillant point de départ vers l'étendue, la profondeur et l'altitude. Bref, il manquait aux anciens la possession entière et organisée du but du supramental et de sa puissance. La fusion de la lumière supramentale avec l'âme, la plus profonde et sa descente dans le mental et dans l'énergie de vie, et même dans le corps physique, les transformant et les divinisant entièrement constitue la découverte particulière et le yoga de Sri Aurobindo. Avec la descente du supramental, le maître visa à créer une nouvelle humanité capable de s'accomplir véritablement elle-même et vivant divinement dans tous les domaines. C'est dans ce but qu'il chercha à former, par sa supramentalisation et celle de la mère, un double centre initiatique pour une nouvelle humanité. La supramentalisation comprend, parmi ses éléments ultimes, la libération des maladies, la prolongation volontaire de la vie et un changement fonctionnel du corps tout entier. Tout ceci, bien entendu, comme l'expression matérielle de l'émergence de la nature divine hors de l'humaine, et non comme l'agrandissement extérieur d'un égoïsme intérieur envahissant. Mais pour embrasser ces ultimes éléments qui seuls pourront fonder avec une entière sécurité une existence terrestre supramentale, le yogi doit finalement en venir aux prises avec les fondements de l'inconscient, la base ténébreuse du divin, submergé d'où l'évolution semble naître. Sri Aurobindo et la mère, prenant sur eux, à titre de pionniers représentatifs, les immémoriales difficultés de toute notre nature humaine, se sont heurtés à ces fondements depuis plus de 15 ans. Non, ce n'est pas l'empiré qui m'occupe, écrivait Sri Aurobindo en 1936 à un disciple. Et il ajouta, je souhaiterais que cela fût. C'est plutôt l'autre extrémité des choses. C'est dans l'abîme que je dois plonger pour construire le pont entre les deux. Mais cela est aussi nécessaire à mon œuvre et il faut y faire face. Au cours de cette plongée, comme couche après couche de l'inconscient occulte, sont ouvertes pour s'efforcer d'y faire descendre la lumière supramentale. Je souhaiterais que cela fût. C'est plutôt l'autre extrémité des choses. C'est dans l'abîme que je dois plonger et il faut y faire face. Au cours de cette plongée, comme couche après couche de l'inconscient occulte, sont ouvertes pour s'efforcer d'y faire descendre la lumière supramentale. Diverses terribles possibilités émergent et de graves blessures intérieures, aussi bien que de sévères tensions corporelles, doivent être endurées. Mais pendant toute cette lutte, le maître du supramental avait un talisman qui pouvait détourner le coup fatal. Immense, malgré la sublime lumière qu'il portait dans tout son corps, furent ses épreuves. Mais il avait aussi la capacité d'en sortir finalement victorieux, de tracer en traits de feu le sentier de l'ultime triomphe pour les hommes qui le suivaient. Vaincre fut donc le plan de Sri Aurobindo. Pour autant que ce plan puisse être déchiffré à travers ses écrits philosophiques et ses lettres, ainsi ce plan, tout autant que l'attitude universelle et non égoïste d'un avatar, transparaît dans une lettre en 1935. « Je ne fais rien pour moi ». Car je n'ai personnellement besoin de rien, ni de libération, moksha, ni de supramentalisation. Si je cherche la supramentalisation, c'est parce qu'elle doit être accomplie pour la conscience terrestre. Et si elle n'est pas faite en moi, elle ne peut pas l'être dans les autres. Oui, Sri Aurobindo, dans ses déclarations écrites, semble avoir envisagé le besoin et par la suite formé le projet de constituer en lui-même et en mère le point de départ de l'humanité supramentale. Mais même dans ses déclarations, il laisse aussi une certaine marge pour un autre dénouement. Une lettre de 1934 parle en termes généraux des voix d'un instrument de Dieu. La divinité agit selon la conscience de vérité en haut et de la lila, le jeu cosmique, en bas. Elle agit aussi suivant les besoins de la lila et non suivant les idées qu'ont les hommes sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas faire. Une allusion plus claire au détour inattendu dans les agissements du divin se trouve dans une lettre de 1935. Pourquoi le divin serait-il obligé de réussir dans toutes ses opérations? Et si l'échec lui convenait mieux et servait mieux son but final? Que de notions rigides et primitives sur le divin. Ceci suggérerait qu'une apparente défaite du but divin, le plus grandiose, pourrait même être une très grande et immense victoire cachée, précisément une voie pour atteindre ce but avec plus de rapidité au moyen d'une stratégie paradoxale. Et tout bien considéré, c'est en fait une telle stratégie qui semble avoir été employée par Sri Aurobindo, alors que l'œil superficiel, il semble avoir succombé à une maladie rénale. Tout le yoga supramental fut en vérité comme la campagne militaire d'un grand général contre les forces qui n'avaient jamais été combattues précédemment par aucune personnalité spirituelle. À l'encontre de toute expérience commune, de toute situation de l'être humain à travers les âges, à travers l'encontre même de tout jusque dans les ténèbres les plus redoutables. Seul un combattant intrépide comme Sri Aurobindo, seul un génie de l'esprit militant comme lui pouvait percevoir intuitivement le grandiose secret de l'épiphanie dans l'évolution et pouvait préparer l'assaut transformateur de la nature établie et marcher de l'avant dans l'esprit révélé par une autre lettre en 1935. Ce n'est pas pour atteindre une grandeur personnelle que je cherche à faire descendre le supramental. Je ne me soucie ni de la grandeur, ni de la petitesse dans le sens humain. Si la raison humaine me considère comme un fou pour essayer ce que Krishna n'a pas tenté, cela m'est égal. Il ne s'agit ni de X, ni de Y, ni de personne dans ceci ou cela. C'est une affaire entre le divin et moi. Savoir si telle est la volonté divine ou non, si je suis envoyé ou non pour faire descendre le supramental et pour ouvrir la voie de sa descente, ou tout au moins pour rendre cette descente davantage possible. Que les hommes me rallient s'ils le veulent, que pour ma présomption, tout l'enfer me tombe dessus. Je ne continuerai pas moins jusqu'à ce que je vainque ou périssent. C'est dans cet esprit que je cherche le supramental, sans poursuivre la grandeur pour moi-même ou pour d'autres. Elle est d'un splendide héroïsme désintéressé, cette vigoureuse image d'un yogi guerrier qui prendrait n'importe quel risque s'il pouvait par là se rapprocher de son objectif. Bien que sa devise ait été « Je conquiers ou péris ». Dans son état d'esprit, il aurait pu lui permettre de se servir d'une devise plus audacieuse « Je péris pour conquérir ». Pour l'adopter, il lui était simplement nécessaire de comprendre qu'en sacrifiant dans une dernière étreinte avec toutes les puissances sombres de l'inconscient, un merveilleux corps irradié de lumière supramentale. Ces puissances seraient tout à fait épuisées et quand la divinité d'or des hauteurs serait fortement attirée vers la terre et dans l'associé de ce corps dans le yoga supramental. Sitôt que cette compréhension de la plus haute importance apparut, Sri Aurobindo fut prêt, en suprême tacticien qu'il était, à changer tout son plan de bataille, à veiller à abandonner toute sa ligne de fortification déjà prête, à délaisser la vieille méthode d'approche, à modifier soudain sa direction si bien tracée. Et au lieu d'essayer de supramentaliser son existence physique dans tous les détails, à s'avancer imperturbablement vers quelques embuscades titanesques et à s'éloigner même de la protection qui lui était donnée par le supramental et à tomber en combattant afin de tout gagner en secret alors qu'il semblait tout perdre en apparence. Alors, je vais terminer avec ça. Mais il est essentiellement de l'essence du sacrifice et de la stratégie, aussi bien que typiquement qu'une résistance âpre s'allie à une vaste et paisible acceptation. C'est pour cela que nous avons dit que Sri Aurobindo est mort en combattant. Ne jamais accepter les imperfections de la nature était sa devise. Car il voyait que le secret même de l'évolution est dans la manifestation de la nature terrestre de ce qui est superficiellement paraît impossible. Le frémissement de la vitalité et de la sensibilité dans une matière apparemment sans vie, le miroitement de l'intellect et de la pensée dans une animalité instinctive, la révélation du supramental apportant la perfection dans une intelligence ostensiblement habituée à tâtonner, dans une force de vie capable de faire des faux pas et dans un corps soumis à la mort. C'est pourquoi, pour Sri Aurobindo, il n'aurait jamais pu être question ni de soumission aux conditions ordinaires du monde, ni de fuite dans la paix hors du monde. Il connut toujours une paix inviolable, dominant le temps. Depuis ses trois jours mémorables à Baroda en 1908, où il atteignit, par le complet silence mental, l'expérience absolue du nirvana, qui fut l'aboutissement de tous les autres yogas, mais ne fut pour lui qu'une base vers de nouvelles conquêtes. Il ne pouvait pas se rendre à rien d'autre qu'au divin. En conséquence, il se battit pour la descente du supramental jusqu'à son dernier souffle, faisant descendre l'immortel soleil de l'esprit, emmagasinant passionnément la lumière supramentale dans son enveloppe terrestre, à un tel point en vérité qu'il put préserver pendant quelques jours cette enveloppe de la corruption et même de la détérioration et de la décoloration. De se battre ainsi au moment même du sacrifice était en accord avec l'effort de toute sa vie. N'a-t-il pas lui-même exposé dans une lettre la technique du triomphe dans ce qui peut sembler une chute? Même si je prévois un résultat adverse, je dois travailler pour celui que je considère devoir être, car cela garde en vie la force, le principe de vérité que je sers, et lui laisse la possibilité de triompher ensuite, ce qui fait que cela devient partie de l'accomplissement du destin futur favorable, même si le destin de leur présente est contraire. Amal Kiran.